Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre rendez-vous. On refait le match. Nous allons accueillir dans quelques instants le président du Stade Rennais, Nicolas Hollweck, fraîchement arrivé en Bretagne. Il nous livrera évidemment son ressenti sur toute l'actualité en général, mais forcément, le Stade Rennais sera évoqué où le mercato pourrait être très actif. Nous évoquerons le big bazar de l'OM. Jacques-Henri Hérault a-t-il repris la main? Bruno Chéroux, au recrutement à Lyon, est-ce une bonne idée? Icardi à Paris, c'est quasiment fait. Sera-t-il l'homme de la situation? L'homme du futur? Nous sommes avec Philippe Sanfourche et avec Silvestro d'RTL. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous.
Et tout à l'heure, Cindy Colmenares et Stéphane Powells. Et puis évidemment, Baptiste Durieux qui relaiera les propos, le ressenti là aussi des auditeurs qui sont avec nous, soit par les réseaux sociaux, soit en direct. Et puis nous évoquerons par un sondage Odoxa Groupama RTL sur le huis clos, sur la façon dont les Français interrogés perçoivent justement ce nouveau football. Il est 18h32, à tout de suite sur RTL.
On refait le match sur RTL. Denis Balbir.
.fr.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, avec Silvestro d'RTL, Cindy Colmenares et Stéphane Powells tout à l'heure, et puis Baptiste Durieux pour relayer ce que pensent les auditeurs de ce qui se passe ce soir dans notre émission. Nous sommes avec Nicolas Hollweck, le président du Stade Rennais, 49 ans le 5 juin prochain, le natif d'Épinal. Il est resté très longtemps à Nancy, puis Monaco, puis maintenant président de Rennes. Nicolas Hollweck, bonsoir.
Bonsoir.
Quel chemin parcouru en quelques années, Nicolas Hollweck, après Nancy, où vous êtes resté, comme on l'a évoqué, plusieurs années. Vous êtes passé par Monaco et maintenant vous êtes en charge du Stade Rennais, qui est un club qui devient très ambitieux.
Oui, c'est un club très ambitieux. Le projet est vraiment très intéressant, avec un actionnaire fantastique à tous les sens du terme. Une de mes plus grandes fiertés, c'est de gérer un de leurs actifs, en l'occurrence le Stade Rennais. Ce sont des gens fantastiques, autant le papa que François-Henri. Donc ce sont des gens vraiment passionnés par le football et qui veulent rendre à la Bretagne ce qu'ils estiment avoir reçu de la Bretagne. Voilà, c'est vraiment un magnifique projet.
Oui, parce que ça fait quelques années maintenant que on nous promet monts et merveilles à Rennes. On dit Rennes va devenir ci, va faire ça. Puis finalement, on voit pas grand-chose, même si ces dernières saisons, ça s'est plutôt très bien passé. Philippe Sanfourche d'RTL est avec nous. On va parler, Philippe, bien sûr, avec vous, président, notamment de ce qui vient d'arriver chez vous, Florian Maurice, qui part de Lyon pour Rennes. Et on a vu et également, on a eu quelques sensations que ça avait froissé le président Aulas, parce que pour lui, c'est forcément peut-être une régression. Philippe Sanfourche.
Alors, avant de parler des relations avec le président Aulas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça phagocyte un petit peu toutes nos interrogations. Oui, président, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir déjà, c'est l'information toute fraîche, hein, puisqu'elle date d'hier, l'arrivée officielle de Florian Maurice, au poste de directeur technique. Alors, est-ce que ça change grand-chose? C'est pas directeur sportif. Pourquoi directeur technique? Et en gros, est-ce qu'on peut dessiner un petit peu les attributions de chacun? Donc, vous arrivez, vous prenez les fonctions de président exécutif. Il y aura donc un directeur technique, Florian Maurice, et un entraîneur, évidemment, conforté, qui est Julien Stéphan. Comment va s'articuler tout ça?
Ça va être très simple. Julien est en charge de l'effectif professionnel et donc de l'équipe principale. Florian aura en charge toute la politique sportive du club, de la formation à l'effectif professionnel. Et moi, j'aurai le rôle d'organiser tout ça autour d'eux, avec eux. On va travailler tous les trois, collégialement. Et puis toute la partie administrative aussi, qui est au service de l'effectif professionnel, pour qu'il n'ait qu'à penser au terrain et à gagner des matchs.
Éric Silvestro d'RTL.
C'est déjà une façon de vous comprendre un petit peu. On sait que vous êtes quelqu'un plutôt de humble, qui aime être au contact évidemment des joueurs, du club, de l'entraîneur. Mais on sent bien que voilà, vous n'êtes pas le genre de personne, en tout cas vous ne l'étiez pas avant, interventionniste. Là, ça sera bien défini. Ça va sans doute aussi rassurer l'entraîneur. Hein.
Oui, interventionniste, je sais même pas trop ce que ça veut dire. Par contre, accompagner l'entraîneur, accompagner la politique sportive du club, oui, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Je ne sais pas travailler autrement qu'en équipe. Donc, le management est mon leitmotiv, et vraiment, c'est avec grand bonheur d'envisager de travailler avec Julien et Florian. Je peux vous dire que je suis persuadé que ce trio va faire des bonnes choses, j'en suis convaincu. J'entendais tout à l'heure que vous disiez que Rennes, on attendait toujours beaucoup. Maintenant, il faut savoir que Rennes, c'est le 7e ou 8e budget français. Donc, je pense que Rennes a toujours performé au niveau de son budget et qu'en ce moment, il est surperforme. Et notre ambition, notre feuille de route, c'est de continuer à surperformer, de devenir un club européen.
Ce que je voulais dire par là, Président, c'est que les discours étaient toujours très ambitieux sans forcément que ça suive. Il y avait eu quelques maladresses un petit peu au niveau des discours. On disait que Rennes allait tout casser. Puis ça se faisait,
mais ça a changé au niveau de l'investissement, au niveau du budget. Il y a eu des achats de fait plus conséquents que par le passé, par exemple, justement pour essayer de grandir.
Mais d'ailleurs, la question qu'on peut poser à Nicolas Hulvec, c'est tout simplement, effectivement, ce budget, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 65 millions d'euros sur la saison qui vient de s'écouler. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise est passée par là? Bien évidemment, personne ne pouvait l'envisager. Est-ce que ça va quand même être possible de continuer d'envisager de rester sur le podium et de viser donc cette Ligue des Champions qu'on espère que vous allez faire si ça passe par le tour préliminaire? Est-ce que à budget constant c'est possible ou est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être d'augmenter un petit peu la mise?
Alors, comme vous le savez déjà, les budgets, on est contraint par le fair-play financier, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit faire en fonction de ses ressources, donc on ne peut pas augmenter le budget de façon illimitée, ça, quand bien même l'actionnaire il serait prêt, c'est pas possible. Donc le budget était plutôt de l'ordre de 80 millions d'euros avec l'Europa League, il sera le même cette année malheureusement, il y a l'augmentation des droits domestiques, mais avec la crise, ça va nous prendre beaucoup de ressources supplémentaires sur lesquelles on aurait pu compter. Il y a une carotte au bout. Si on arrive à rejoindre des groupes stage de Champions League, c'est sûr que le budget sera augmenté. Après, que Rennes devienne un club de Champions League, c'est un peu tôt. Il faut déjà qu'on devienne un club régulier en Europa League, qu'on soit européen chaque saison. Et je compte surtout sur le centre de formation. Ça sera aussi un de mes fondamentaux. Le centre de formation à Rennes a toujours été précurseur, a toujours été un des leaders. Et on doit se reposer encore plus sur lui parce qu'on n'aura pas les moyens d'aller sur le marché comme certains concurrents. Donc on devrait être très bon au centre de formation pour amener dans l'équipe première des joueurs du centre de formation du Stade Rennais.
Éric Silvestro.
Monsieur Hulvec, je reviens sur l'arrivée de Florian Maurice. Alors je ne parlerai pas comme Jean-Michel Aulas éventuellement de régression. Au contraire, je parlerai de belles prises pour le Stade Rennais parce que c'est vrai que débaucher quelqu'un de Lyon pour le faire venir à Rennes, ça marque aussi peut-être justement cette nouvelle structure rennaise, cette nouvelle ambition sur le long terme. C'est pas rien, même si c'est pas un joueur. Hein, ça reste quelqu'un d'identifié dans le milieu du foot français qui a longtemps œuvré à Lyon, qui est un club sur le papier plus grand que Rennes.
Alors déjà, pour lui, je pense que c'est une progression de par le poste, parce qu'aujourd'hui, il va être vraiment reconnu au regard des compétences qui sont les siennes, parce qu'aujourd'hui, il aura vraiment en charge toute la politique sportive du Stade Rennais, ce qui n'était pas le cas à Lyon, ou ce qui n'était pas reconnu comme tel. Donc, il vient avec un poste avec beaucoup plus de responsabilités qu'à Lyon. Et c'est sûr que pour Rennes, ça fait partie de la construction du projet. On sait que Florian est un gros travailleur, un grand connaisseur du football et notamment des jeunes joueurs. C'est pour ça aussi que pour nous c'était important qu'il nous rejoigne. Et il va bien dans ses stratégies de développer le centre et de faire venir aussi de jeunes joueurs à un très fort potentiel qui ont entre 20 et 24 ans.
Vous allez avoir des dossiers évidemment tout de suite très chauds à gérer. On pense évidemment en premier lieu à la pépite Camavinga. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est votre parcours. Vous avez connu, vous, aux côtés de Vadim Vassiliev à Monaco, l'éclosion et l'explosion du phénomène Kylian Mbappé, avec tout ce que ça représente de sollicitations des plus grands clubs du monde. Comment ça se gère et comment vous avez prévu de le gérer?
Déjà, la chance qu'on a que j'ai eue pour Kylian à Monaco et maintenant pour Eduardo à Rennes, c'est que ce sont deux joueurs qui ont un entourage familial exceptionnel. Ce sont deux joueurs qui, en termes de maturité, sont en avance. Ce sont deux joueurs intelligents qui ne veulent pas brûler d'étapes, bien que ce soit des phénomènes, c'est des extraterrestres. Il y en a très peu, des joueurs comme ça, très très peu. C'est une chance énorme pour moi d'en côtoyer deux aussi rapidement. Donc ils connaissent aussi les différentes étapes pour les amener au plus haut niveau. Et ça, c'est en général plus simple à gérer pour un club. Et aujourd'hui, le projet pour Eduardo, c'est de continuer à progresser au Stade Rennais. Il a une proximité énorme avec le coach, avec l'adjoint. Il sait qu'il est encore très jeune et la saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes et pour faire encore de très grandes choses ensemble.
Président, donc vous êtes en train de nous dire assez clairement finalement que Kamavinga est intransférable cette saison.
J'ai quand même noté devrait, donc vous avez quand même utilisé le conditionnel.
Bah, dans le foot, bon, vous savez mieux que moi qu'on ne peut jamais rien jurer. Compte très sincèrement, oui, le projet la saison prochaine sera avec Eduardo.
Je vais poser la question différemment. J'ai bien compris que Rennes a l'intention de garder Eduardo Camavinga. J'ai bien compris que le joueur est d'accord aussi sans doute pour rester, pour continuer à grandir. Qu'est-ce qui pourrait justement empêcher ce scénario? C'est-à-dire une offre qu'un club comme Rennes ne peut pas refuser, par exemple?
Même pas forcément. Vous savez, déjà, les clés sont aussi dans les mains d'Eduardo et de son entourage, puisque même si on recevait une offre pharaonique, s'il veut rester à Rennes, ce qu'on souhaite aussi, ça changerait nos problèmes. Donc, on n'a pas le couteau sous la gorge. On a la chance d'avoir un actionnaire qui nous soutient dans cette crise. Alors, on n'est pas plus malin que les autres. Hein, on souffre aussi, mais on a la chance d'avoir cette force derrière nous. Et donc, on peut vraiment envisager ce mercato avec sérénité pour Eduardo. Oui.
La possibilité.
Et je rappelle aussi qu'en plus, à côté de lui, on a Steven Nzonzi. Donc, au milieu de terrain à Rennes la saison prochaine, je pense que sur le papier, on aura un des plus beaux milieux de terrain de Ligue 1.
Il y a quelque chose qui se fait depuis quelques temps, c'est de conclure une vente, mais sur la saison suivante, par exemple. Ça, c'est envisageable, ça? C'est-à-dire qui reste
alors que c'est... Oui. Je ne suis pas très fan. Vous savez, un joueur qui signe ailleurs et qui reste la saison dans son club, ça se passe rarement bien. Il faut comprendre aussi, à cet âge-là, vous imaginez signer, je ne sais pas dans quel grand club, et on vous dit tu restes un an de plus à Rennes, il a la tête ni à Rennes ni dans l'autre club. Je ne suis pas fan.
Le contre-exemple, président, si je peux me permettre, c'est Saliba à Saint-Etienne, c'était pas si mal cette saison.
Ah, mais il a été blessé quand même, voilà, oui. Exactement. Et c'est peut-être pas le hasard, parce que il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs qui n'ont même pas 18 ans. Mmh. Imaginez-vous à leur place, avec toute cette effervescence autour de vous, c'est pas simple à gérer. Et effectivement, pour Saliba, on voit qu'il y a eu des blessures. Donc ça n'a pas été si simple non plus.
On se retrouve dans quelques instants, président Olvec, le président du Stade Rennais qui est avec nous, Nicolas Olvec, jusqu'à 19h. Nous évoquerons ensuite, après 19h, évidemment, ce qui se passe en France et ce qui ne se passe pas en France, hein, puisque la reprise est partout sauf chez nous. Nous évoquerons le Big Bazar de l'OM. Jacques-Henri Hérault a-t-il repris la main? Bruno Chéreau, recrutement à Lyon. Icardi à Paris, c'est quasiment fait. Nous sommes avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'Irtel, et puis tout à l'heure, Cindy Colmenares et Stéphane Powells, ainsi que Baptiste Durieux. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Économisons-la.
RTL, on refait le match.
Avec Denis Balbir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur RTL avec comme invité ce soir Nicolas Olvec, le président du Stade Rennais. Président, merci d'abord d'être avec nous jusqu'à 19h. Nous parlions de Kamavinga. Vous nous dites et nous vous confirmez qu'on tournera finalement autour de lui cette saison pour faire évoluer le Stade Rennais dans une bonne position sportive. Qu'en est-il du dossier Niang? Est-ce que, évidemment, le Stade Rennais, on en a parlé, on l'a lu, est-ce que c'est vrai que le Stade Rennais attend, pourquoi pas, Denis Bouanga de Saint-Etienne chez vous? Président Olvec. On a perdu le président. Nicolas Olvec, vous êtes là?
Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en mute.
C'est pas grave. Je répète ma question sur Kamavinga. On a donc bien compris, et c'est très bien comme ça, parce que c'est vrai qu'on est rassuré hein, d'avoir de très bons joueurs dans le championnat de France de Ligue 1. Kamavinga devrait rester à Rennes. Est-ce que vous confirmez que Niang a des offres et puis que vous avez fait une offre déjà à Saint-Etienne pour Denis Bouanga?
Non, je confirme rien du tout sur Denis Bouanga. N'a fait aucune offre. Aujourd'hui, Mbaye est sous contrat avec le Stade Rennais. C'est un joueur important. C'est un joueur avec des statistiques. Trouver un remplaçant, un attaquant comme lui, c'est pas simple. Donc, pour l'instant, on est dans la logique de poursuivre avec Mbaye. J'ai vu qu'il faisait quelques déclarations sur Marseille. Je peux comprendre son envie de vouloir rejoindre Marseille, mais il a aussi bien confirmé qu'il était bien à Rennes. Rennes va aussi l'année prochaine jouer la Coupe d'Europe, peut-être la Champions League comme Marseille. Donc pour l'instant, Mbaye est à Rennes et on n'a reçu strictement aucune offre ni même aucun contact le concernant. Donc pour l'instant, on part avec Mbaye pour la saison prochaine.
C'est quand même un peu gênant parce que les appels du pied que vous évoquez, il les a fait à plusieurs reprises. Ça peut témoigner aussi d'une mentalité, on va dire, sinusoïdale, et ça peut poser un problème si jamais ça devait se confirmer. Donc il va falloir gérer ça aussi, même si, encore une fois, c'est vrai, il a souligné à plusieurs reprises qu'à Rennes, Rennes l'avait relancé et tout ça.
Vous savez, la période aussi était propice à ces choses-là, puisqu'il faut pas oublier qu'on a arrêté de jouer depuis le 10 mars pratiquement, donc c'est très long, mais je doute pas que le 22 juin, quand la reprise sera là, Kaimba reviendra à la Pivardière, l'état d'esprit changera complètement, j'en ai aucun doute. C'est l'intérêt du joueur aussi de montrer qu'il est toujours au même niveau que la saison dernière. Rennes l'a relancé, il a aidé aussi Rennes à avoir ses résultats, donc on est dans un projet commun et je suis pas plus inquiet que ça.
Philippe Sainfourche.
Peut-être que vous ne nous donnerez pas de nom précisément. On parlait de Bouanga, vous nous disiez qu'il n'y avait pas d'offre alors qu'il est. Mais globalement, sur la philosophie de recrutement, moi j'ai le souvenir d'un échange avec Julien Stéphan après la défaite en demi-finale de Coupe de France, où on sentait que la qualité intrinsèque des joueurs, c'était aussi peut-être un petit déficit d'expérience, une ossature. La saison précédente, on se souvient qu'il y a eu des départs comme Benjamin André, des joueurs un petit peu costauds. Vers quel profil de joueur vous direz pour cette intersaison?
Oui, vous avez raison, Julien a aussi tout à fait raison. Bah, déjà, il y a Steven qui nous a rejoint et il est arrivé que fin janvier, hein, donc on n'a pas vraiment eu le temps de prendre conscience de l'importance de Steven dans l'effectif, et je suis convaincu que la saison prochaine va être la sienne. On a pu le voir sur les derniers matchs, notamment Montpellier qui montait en puissance, malheureusement ça s'est arrêté, donc on a Steven qui va nous apporter cette expérience et on va rechercher un petit peu d'expérience supplémentaire, et aussi on va chercher à étoffer l'effectif puisque on va avoir un nombre important de matchs à jouer, donc on va chercher à renforcer en qualité et en quantité d'effectif pour la saison prochaine, notamment derrière.
Après avoir évoqué vraiment le cas très précis de votre club, ce qui paraît quand même relativement normal, on va passer maintenant à une revue un petit peu plus globale de ce qui se passe aujourd'hui. La Liga va reprendre, l'Italie va reprendre, l'Angleterre devrait reprendre le 17 juin, le Portugal et l'Allemagne l'ont déjà fait. Le journal L'Équipe hier, c'est un petit peu, sans amuser, mais a fait un petit peu d'ironie, sommes-nous des cons? Quel est votre sentiment, Nicolas Hulbeck, sur le fait que la France soit finalement le seul pays qui ne reparte pas dans son championnat?
Il est vrai que peut-être qu'on est allé un peu vite sur la décision de tout arrêter. Il faut savoir qu'on avait vraiment, tous les clubs étaient dans l'envie de poursuivre. On avait préparé un protocole de reprise, un calendrier de reprise. Enfin, tout était en place pour reprendre. Maintenant, il faut se rappeler aussi de la situation sanitaire à la fin du mois d'avril en France. C'était quand même très compliqué. On ne savait même pas si on allait déconfiner début mai comme c'était prévu. On avait peur d'une deuxième vague. Aujourd'hui, l'Allemagne a repris, d'autres vont reprendre. Moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu pour voir si c'est une bonne décision ou non. Ils sont quand même dans la plus grande expectative. On ne sait pas si un club va être touché. Il suffit qu'un club soit touché par une épidémie de Covid et tout est mis par terre. Je vois que ça commence aussi au niveau des blessures à être plus compliqué en Allemagne. Je vois l'Espagne qui va reprendre sans avoir d'entraînement pratiquement. Je pense qu'il faudra en tirer les conséquences à la fin de l'année civile, parce que je crains aussi que physiquement, à l'automne, pour les joueurs qui ont repris aussi rapidement, en jouant aussi des matchs aussi fréquents, je suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Maintenant, économiquement, c'est sûr que ça aurait été bien mieux d'attendre un peu et qu'on puisse finir, ça c'est certain.
Ça avantagera d'ailleurs peut-être les clubs français en fin de saison prochaine, s'ils sont encore en Coupe d'Europe, avec une vraie préparation, pas d'enchaînement comme eu les autres clubs. Juste sur cette histoire d'arrêter peut-être un peu trop tôt, en tout cas de prendre la décision, on a bien compris, le sanitaire a été primordial. Ce qui a étonné un peu tout le monde, c'est que quand il y a eu l'annonce d'Edouard Philippe, derrière, deux jours après, la Ligue et la Fédé ont tout entériné. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire, voilà, pour l'instant, le gouvernement dit pas de foot, ok, pas de foot, et puis on fait le point dans un mois, dans cinq semaines, comme ça a été le cas pour d'autres domaines d'activité. C'est ça qui a été un peu étonnant. Le sport a été bâché, fermé, rideau, en deux jours.
Et rappelez-vous le discours du Premier ministre, hein, il a été très clair, il a dit la saison 19-20 est terminée. Alors après, on peut avoir les idées qu'on veut, les opinions que chacun veut défendre. Maintenant, ça vient du plus haut sommet de l'État. La Ligue, c'est une délégation de pouvoir public, donc la Ligue n'avait pas d'autre choix, malheureusement, que d'obtempérer. On peut peut-être le regretter, mais encore une fois, c'est une décision qui vient du plus haut sommet de l'État. On est en République et on doit s'y soumettre.
Vos relations sont normalisées avec Jean-Michel Aulas? On sait qu'il y a eu un petit échange un petit peu doux amer entre vous.
Non, il n'y a eu aucun échange. Encore une fois, comme je le dis là, sur le fond, il a raison. Et personne n'a dit le contraire d'ailleurs. Encore une fois, tout le monde est reine. Vous pouvez regarder toutes mes déclarations de ma prise de fonction le 18 mars à la fin du mois d'avril. J'ai toujours dit, on doit aller au bout. Parce qu'économiquement, c'était vital. Maintenant, sur la forme et sur le discours, on avait quelques différences, puisque moi, je continue continue à affirmer qu'une décision qui vient du plus haut niveau de l'État, on se doit de la respecter. Maintenant, on en est victime aussi, il faut le dire. La situation économique des clubs est très compliquée de par cette décision. Donc, avançons plutôt sur les mesures qui pourraient nous aider à nous sortir de ce faux pas, puisqu'encore une fois, c'est l'État qui nous a contraints à arrêter.
Alors, Président, il y a un sondage Odoxa, RTL, Groupama, qu'on va évoquer tout à l'heure, mais je voulais avoir votre sentiment, vous, sur le huis clos. Qu'est-ce que vous pensez du huis clos? Évidemment, ça va se faire partout quand ça va reprendre, hein, donc c'est le cas déjà en Allemagne. Quel est votre sentiment pour vous? Les Français, dans leur majorité, préfèrent attendre que de voir du huis clos, de voir des matchs à huis clos, sans ambiance, etc. Quelle est, vous, votre idée?
Pour moi, le huis clos, c'est la négation du football. Si on fait des matchs de foot, c'est pour vibrer avec le public. Les joueurs veulent vibrer avec la foule. J'ai eu le malheur de vivre un match à huis clos avec mon fils à Montpellier pour des raisons disciplinaires au stade de Montpellier. Et c'est juste catastrophique. C'est horrible. Là, vous savez, les championnats qui reprennent là, ce sont uniquement des considérations économiques qui ont prévalu. Mais je les comprends. Hein. On aurait été dans la même situation. Mais encore une fois, je ne comprends même pas qu'on puisse sanctionner un club à huis clos pour des fumigènes, quand bien même je ne valide pas du tout les fumigènes, hein. Mais le huis clos, c'est juste horrible. Demander aux joueurs ce qu'ils pensent d'un match à huis clos, c'est catastrophique.
Nicolas, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce que j'ai l'impression que la petite musique qui se dessine, c'est quand même pas forcément un huis clos total. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, était notre invitée la semaine dernière sur RTL, et elle a commencé à évoquer entre les lignes une jauge, il y a cette fameuse jauge des 5000 personnes, pour...
reprise en mode dégradé.
Voilà, une reprise en mode dégradé. Elle a dit pour Roland-Garros, pour le Tour de France, elle a aussi évoqué les stades de football. Donc on pourrait peut-être imaginer, non pas un huis clos total, mais un mode dégradé avec, je ne sais pas, 5000 personnes par exemple dans le stade. Est-ce que ce serait un compromis pour démarrer la saison acceptable?
Chaque semaine qui passe, je suis de plus en plus optimiste parce qu'il y a 15 jours, on ne savait même pas si on pouvait jouer fin août. Il y a une semaine, on nous a dit qu'on pourrait jouer fin août. Hier, on nous dit qu'on va pouvoir jouer avec un peu de public. Fin août, c'est dans presque 3 mois. Donc, j'ai envie d'être très optimiste. Déjà, ça voulait dire que l'épidémie est passée, que pour la population, il pourrait y avoir une vie normale. Donc, j'ai vraiment bon espoir que fin août, on puisse jouer avec des stades plein, je l'espère vraiment. Ça permettra aussi au public de revivre. Le foot, c'est quand même, ça apporte un lien social incroyable dans n'importe quelle ville. Ça apporte beaucoup de bonheur, de plaisir. Donc j'espère aussi que pour la population, on pourra se retrouver tous ensemble autour de son club favori, dans le stade de son club, et vivre des moments incroyables. Après toute cette période, je pense que ce sera un moyen exceptionnel de penser à autre chose.
Philippe Sansfourche-Chartel.
Oui, Nicolas Hulvec, deux petites questions pour revenir à la situation de Rennes. Déjà, d'un point de vue très, très factuel, où vous en êtes? Je sais que vous avez été un des premiers à reprendre de manière évidemment très précise les entraînements individuels, hein, sans jeu collectif, il y a 2 semaines, mais vous aviez envisagé que les joueurs partent en vacances, si je crois, dès maintenant. Est-ce que c'est toujours le cas par rapport au planning en vue? Et dans la relation que vous avez avec vos joueurs, est-ce qu'il y a eu globalement une discussion, une réflexion globale sur les salaires? On a beaucoup parlé de baisse de salaire, de contribution à l'effort dans d'autres clubs. Qu'en est-il à Rennes?
Donc effectivement, on a repris il y a 2 semaines et demie, puisqu'on s'est dit qu'une coupure de 3 mois, 4 mois pour des athlètes de haut niveau, c'est juste impensable. Et on a bien fait, parce qu'on s'est rendu compte, quand bien même il n'y avait pas d'opposition, mais juste un peu de jeu avec ballon à distance, qu'au bout d'une semaine, les joueurs avaient des gros problèmes sur les appuis. Ça commençait à tirer de partout. Julien était obligé de supprimer une séance au bout de semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis, je n'ose même pas imaginer les conséquences sur les joueurs dans les autres championnats. Et on a arrêté donc l'entraînement hier, et les joueurs sont en vacances jusqu'au 22 juin pour la reprise. Après, pour ce qui est des salaires, en France, tous les joueurs ont été confrontés au chômage partiel. Donc il y a quand même une baisse de 30% de leur brut. Donc c'est pas rien, hein. Il y avait un dispositif français unique en Europe. Donc tous les joueurs ont fait des efforts. Après, par rapport aux pertes qu'on subit, c'est pas encore suffisant. Donc on a eu des discussions sur les salaires avec les joueurs, qui sont toujours en cours. Mais je dois saluer vraiment l'état d'esprit des joueurs à Rennes. Ça se fait toujours dans un climat serein et remarquable, et on essaye de trouver des dispositions justes, et on a trouvé des dispositions justes.
Éric Silvestro.
Plus je vous écoute, Nicolas Hulvec, et plus je vous trouve heureux. Je ne sais pas si c'est devenu intenable à Monaco avec le fonctionnement un peu particulier du club de la Principauté, même si vous avez vécu de très belles heures là-bas, mais là, on vous sent impatient, serein, heureux dans ce nouveau costume qui est aussi plus grand. Il va falloir aussi l'appréhender. Ouais, je sens beaucoup de sérénité.
Ben, vous savez, j'ai de la chance. Hein. Je suis rentré dans le foot. Je n'ai travaillé que dans le foot depuis 97 avec des gens exceptionnels. Jacques Rousselot à Nancy, Vadim Vassiliev à Monaco et aujourd'hui François-Henri Pinault et François Pinault. Donc j'ai déjà une chance exceptionnelle. Et depuis 97, j'ai pas l'impression de travailler. Je vis de ma passion et c'est une chance unique. Voilà. Même si c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps passé au travail, beaucoup de sacrifices pour la famille. J'ai la chance aussi que ce soit accepté. Très sincèrement, c'est que du bonheur de travailler dans cette ambiance-là. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient être à ma place.
Rapidement, un dernier mot, Nicolas Olvec, le président du Stade Rennais, est avec nous pendant encore 2-3 minutes. La Ligue 2 à 22, qui finalement ne sera pas à 22, vous avez une idée aussi, une opinion ?
Très sincèrement, j'avais échangé avec le président du Mans. J'étais pas un grand fan du changement des formats. Je trouve un peu ça compliqué de changer. Maintenant, c'était des circonstances exceptionnelles. Je comprends la décision de la fédération qui doit préserver le format des compétitions. C'est difficile pour Le Mans et Orléans parce que c'est vrai qu'ils se retrouvent en national après une saison tronquée. Ils étaient très près de pouvoir se maintenir. De toute façon, ce sont des décisions toujours très difficiles à prendre. Mais je pense que c'était compliqué de passer à 22-24.
Merci beaucoup Nicolas Olvec, le président du Stade Rennais qui était avec nous jusqu'à 19h. Merci, on a compris, on fera un débrief tout à l'heure avec Stéphane Pauls et Cindy Colmenares qui vont nous rejoindre. On se retrouve dans quelques instants sur RTL.
RTL, on refait le match.
RTL, 19h. La formation avec Aude Vernuccio.
Bonsoir à tous. Avec le déconfinement, le relâchement sur les routes, la sécurité routière parle de chiffres alarmants, la mortalité repart à la hausse et les comportements à risque également, plus 15% des grands excès de vitesse. À partir de mardi, terminée la règle des 100 km autour du domicile, début de la phase 2 du confinement, mais elle reste en vigueur ce week-end, attention au contrôle. Ce mardi, réouverture annoncée des plages et des lacs, des musées, des cafés, bars et restaurants dans toute la France. Seules les terrasses pourront servir les clients en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane. Et puis dans l'Oise, le parc Astérix accueillera du public dès le 15 juin. Port du masque obligatoire dans les attractions. Il n'y a pas de reprise de l'épidémie selon Santé publique France. Premier bilan après 3 semaines de déconfinement. 109 foyers de contamination ont été identifiés, mais pas de dissémination du virus. L'épidémie est sous contrôle, rassurait jeudi le Premier ministre. À Paris, malgré l'état d'urgence sanitaire, une marche pour les sans-papiers rassemblés 5 500 personnes selon la préfecture. Le cortège est parti des places de l'Opéra et de la Madeleine avant de rejoindre la place de la République. Manifestation dispersée par les gaz lacrymogènes de la police. La préfecture n'avait pas autorisé les regroupements en raison du coronavirus. Dans le reste de l'actualité, on l'avait surnommé le camion de l'horreur en octobre dernier. C'est dans ce camion frigo que 39 migrants vietnamiens ont été retrouvés morts en Grande-Bretagne. Les 13 personnes interpellées mardi en France ont été mises en examen pour traite d'êtres humains et homicide involontaire. Aux États-Unis, Houston, Atlanta, New York, Washington expriment à leur tour la colère de la communauté afro-américaine. Réaction en chaîne après la mort de George Floyd à Minneapolis. L'homme de 46 ans est décédé suite à une interpellation musclée. Le fonctionnaire impliqué a été inculpé pour homicide involontaire. La capsule de SpaceX retente le coup. Un nouveau départ est programmé ce soir à 21h22, précise heure française. Le vol avait été annulé en raison du mauvais temps. Les deux astronautes à son bord doivent rejoindre la Station Spatiale Internationale. Ce serait le premier vol habité depuis 9 ans aux États-Unis. La météo, du soleil sur la majeure partie du pays cet après-midi. On attend des orages encore en soirée dans le sud, entre les Alpes et la Corse et en montagne sur les Monts d'Auvergne et les Pyrénées. Les températures de 20 à 32 degrés. Demain, encore une journée bien estivale, sauf dans le Golfe du Lion avec de nombreux nuages. On attend des averses orageuses sur les massifs et l'île de Beauté essentiellement. Demain matin, côté température, prévoyez de 7 à 15 degrés en moyenne. L'après-midi, de 19 à 29 degrés pour la maximale et ce sera à Bayonne.
Merci beaucoup Aude Vernuccio, très bonne soirée à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Stéphane Powell, Cindy Colmenares, Philippe Sanfourche et Silvestro Dertel. Nous allons parler de Jacques-Henri Hérault. A-t-il repris la main, le président de l'OM, et puis Bruno Chéroux au recrutement à Lyon, est-ce une bonne idée? Icardi à Paris, au Paris Saint-Germain, c'est déjà quasiment fait. Et puis un sondage au Doxa, RTL, Groupama sur le huis clos. Qu'en pensent les Français, les amateurs de football et les Français? Il est 19h04 sur RTL, à tout de suite.
Denis Balbir sur RTL. on refait le match.
Point Leclerc.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Stéphane Powell, Cindy Colmenares, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. Un petit mot sur ce qu'a dit Nicolas Hulbeck, le président du Stade Rennais. Cindy Colmenares.
Oui, moi je trouvais que son interview était quand même assez intéressante. Enfin, on s'attendait un peu à certaines de ses réponses puisqu'il vient d'arriver assez récemment au club. Par contre, par rapport à Niang, c'est vrai que les doutes demeurent. Je comprends son discours qui se veut rassurant. Il faut savoir que de toute façon, ce joueur, il est arrivé à Rennes, il a pu se relancer. Mais il y a un certain doute. Et concernant Camavinga, certes, Rennes a tout l'intérêt de garder ses joueurs, déjà ne serait-ce que sportivement certainement, mais aussi financièrement. C'est aussi, il aurait pu d'ailleurs les dire, c'est aussi une bonne assurance pour Rennes, bien que ces clubs ne soient pas en difficulté comme d'autres clubs au niveau financier, comme l'OM ou autre. Mais c'est vrai que ça laisse aussi une bonne marge de manœuvre.
Stéphane Powells.
Messieurs, comme je suis dans la bonne humeur, hein, je vois que...
Messieurs, dames, s'il te plaît.
Je suis très... Messieurs, dames, mais oui, mais j'ai écouté religieusement avec Cindy, mais je vous ai écouté poser les bonnes questions. Et vous avez quand même, pour un nouveau président à Rennes, posé... Vous avez oublié quelques questions, vous ne lui avez pas demandé qui était Rodrigue. Vous savez qui est Rodrigue? Vous ne savez pas ça? Rodrigue est un petit cochon, quoi. Rodrigue, c'est en 1965, quand Rennes a gagné la Coupe de France contre Sedan, ils avaient un sanglier et Rennes avait un petit cochon. C'est l'emblème du club. C'était Thierry Roland qui commentait le match sous Pompidou. Et vous ne savez pas ça, monsieur?
Mais vous n'avez
pas posé la question, monsieur Hulbeck. Allez, plus sérieusement. Voilà, allez, en boutade.
Droit au but.
Allez, en boutade. Ben, j'ai entendu un nouveau président, assez calme, assez posé. Il aime beaucoup ses actionnaires. Ça en fait du bien. Il remplace monsieur Le Temps qui avait une forte personnalité, et on sait très bien qu'à Rennes, l'entraîneur Stéphane a aussi une forte personnalité. Alors il a ramené deux personnages qui ont aussi des personnalités, mais qui, je me demande si c'est pas un peu des gardes-chiourmes aussi, qui sont là pour tempérer, c'est-à-dire aussi bien au niveau du recrutement avec Flo Moris, et parce que Guy Stéphane avait quand même la décision principale sur le sport.
Julien Stéphane.
Julien Stéphane, et je pense que Florent Moris est là aussi pour calmer un peu le jeu. La post-formation, il connaît très très bien. Je pense que c'est des recrutements intelligents, et je pense qu'on va avoir un président, vous l'avez entendu quand même, je sais qu'il vous a séduit, et c'est de bonne guerre, il parle juste, c'est un type qui, moi j'aime beaucoup ces gens qui ont passé par toutes les étapes dans les clubs, step by step, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui ira dans le move pour éviter des conflits. Parfois suffisant pour faire de l'excellent travail.
Non, ce qui vient chez lui, c'est aussi qu'il s'est trouvé les talents. C'est Florian Maurice. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on a l'impression que ces clubs, en plus d'être ambitieux, il est en train de se construire avec les personnalités qu'il faut, avec les projets qu'il faut. J'ai beaucoup apprécié lorsqu'il a parlé des jeunes, lorsqu'il a dit qu'ils vont commencer à recruter au niveau des centres de formation avec l'arrivée d'Adrien Truffaut.
Il a souligné à juste titre que c'était toujours un centre, on se souvient du travail de Patrick Campillon.
Toujours
un centre de formation très fort.
Mais c'est évident que ce qu'a commencé à expliquer Stéphane est très juste, c'est qu'il y a une logique dans tout ça. Faut rappeler quand même ce qui s'est passé. Le départ d'Olivier Létang dans un conflit avec son entraîneur, ça arrive une fois sur mille dans le foot, ça. C'est la logique est toujours totalement inverse. C'est toujours le président appuyé par l'actionnaire qui prend le dessus et l'entraîneur, il valse et il est remplacé par un autre. Là, ils sont conscients, l'avenir nous dira s'ils ont raison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui estiment qu'ils ont raison. C'est que Julien Stéphane est un technicien qui a un grand avenir en France et qu'il y a un moment, il faudra peut-être aussi le garder parce que manifestement, il remplit toutes les cases.
Et on se souvient qu'il avait été convoité par Monaco.
Oui, tout à fait.
Pour être adjoint de Thierry Henry, il a bien fait de rester à Rennes, il a pris les manettes et aujourd'hui, on parle que de lui.
Ils sont dans une logique. Et Julien Stéphane, il a très très vite identifié, et c'est aussi pour ça qu'il était en conflit avec Olivier Létang, c'est que la politique globale et le fait d'insérer la formation, d'avoir une logique sur la formation, un suivi qui allait ensuite avoir une ouverture sur le professionnel, il ne le voyait pas dans les années à venir correctement avec Létang. Là, il a fait venir des gens qui sont identifiés comme des gens qui sont capables de faire cette courroie de transmission intelligente entre le centre de formation et ensuite le professionnel.
Moi, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que justement le plus grand danger pour Rennes la saison prochaine, c'est Julien Stéphane, parce que autour ça va se structurer avec des gens qui vont bosser chacun dans leur domaine. Hulbeck, c'est pas quelqu'un qui veut prendre la lumière. Maurice, il va être chargé du recrutement, et Stéphane, il a pris un peu le pouvoir, comme tu dis, avec le départ de Létang.
Ah, mais ça, c'est le revers de la médaille.
Non, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a un an, Stéphane, il n'entraînait pas. Personne ne... Alors, il a fait un super début de carrière d'entraîneur. Mmh. Attention quand même aussi à ne pas se laisser griser, à vouloir prendre justement tous les pouvoirs, etc. Et je pense que pour lui, la fameuse saison...
Bah, de la... Non, prendre, il les a.
Non, alors... mais la fameuse saison de la confirmation, comme on dit souvent pour un club qui arrive en élite.
Il va avoir un bon effectif, apparemment.
Je vais vraiment regarder avec attention le comportement de Julien Stéphane sur la deuxième saison, en espérant que ce soit que le début d'un grand entraîneur.
Bien sûr, Stéphane Pauwels.
Bien sûr, moi je suis assez d'accord. C'est un type, on est tous d'accord, qui a une forte personnalité, l'entraîneur. Mmh. Et donc il y a beaucoup de.
Il a une maturité. Il a une maturité,
il
a du charisme.
Il va pas y arriver.
Il a baigné dans le milieu du foot et vous savez très bien, et tous, qu'il y a certains entraîneurs qui ont plus d'ego que d'autres et lui il en a certainement plus que d'autres, d'ego que d'autres. Mais par contre, mettre autour de lui des gens qui font plutôt profil bas et qui sont des mecs qui travaillent dans l'ombre avec beaucoup de charisme, je pense que l'osmose, la symbiose entre tous ces gens-là peut fonctionner. Vous savez, toujours mon discours, une réussite dans un club, il faut un président, un directeur sportif et un entraîneur qui travaillent sur la même baseline et qui ont la même vision des choses. Et je pense que là, on a, je pense, les bonnes personnes pour pouvoir travailler
surtout,
ensemble.
Et surtout, on a trois gros travailleurs.
Quelques réactions
à battre du boulot.
Baptiste Durieux, qu'est-ce qui a inspiré le discours du président Holweck aux auditeurs ?
Beaucoup de choses, notamment le message d'Alexis. Donc là, on repart comme en 40 avec Kamavinga et Niang la saison prochaine, si j'ai bien compris. Je vais passer un très bon week-end, nous dit Alexis, qui est ravi.
Et puis
message de, exactement. Et puis message de Romain. Beaucoup de sérénité et de force se dégage de ce président. Le monde s'était effondré suite à l'annonce du départ d'Olivier Létang, mais aujourd'hui, je suis très confiant. Le trio Maurice, Stéphane, Holweck me plaît beaucoup.
Alors on a 3 minutes pour terminer sur le Stade Rennais. Stécy, supporter de Rennes, est avec nous ce soir. C'est vrai que c'est un discours quand même réconfortant parce que c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui également fait preuve d'ambition, même s'il a les moyens, il va falloir bien recruter, mais on semble quelqu'un de calme et sûr de lui. Stécie.
Allô ?
Oui, c'est à vous, oui. Vous êtes avec nous sur RTL.
Ah pardon, je ne vous entendais pas.
Votre sentiment sur ce qu'a dit le président Holweck ?
J'ai pas entendu ce qu'il a dit.
Ah bon, bah, comme ça c'est réglé. Non mais c'est, bon, il a en très peu de mots ce qu'il a dit, parce que ce qui intéresse les supporters forcément, c'est que Kamavinga, sauf offre exceptionnelle, devrait rester. Même on va construire un petit peu l'équipe autour de lui. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous.
C'est une très bonne nouvelle, oui.
Est-ce que vous pensez que votre équipe va pouvoir figurer en Coupe d'Europe la saison prochaine?
Bah, comme on l'a vu déjà sur les saisons précédentes, ils ont fait de très bons résultats déjà en Europa League. Même en Ligue 1, ils ont quand même gagné le championnat l'an dernier.
Vous êtes vraiment supporter de Rennes, hein, vous nous rassurez.
Oui, vraiment.
Oui, parce que cachez votre joie quand même. Hein.
Mais c'est parce qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En fait, cette équipe actuellement est juste en train de renforcer son équipe. Ils sont bien financièrement, ils sont les équipes qu'il faut, l'encadrement qu'il faut. Je peux comprendre que les supporters qu'on a au téléphone, ils soient tout à fait rassurés.
Philippe Sanfourche, un dernier mot sur Nicolas Holweck, parce que c'est vrai qu'on a parlé globalement du club, c'est normal, c'est la priorité. Mais l'homme, c'est vrai, paraît quand même très très sûr de la force de son club. Et puis, on sent qu'il va amener de la sérénité.
Non, mais quand on disait qu'il a un parcours assez exceptionnel, effectivement, si on se penche en détail sur le bonhomme, à Nancy, il est passé par le commercial, il était manager, ensuite vice-président.
C'est intéressant,
hein. Le président Rousselot voulait en faire finalement presque lui donner les clés du camion. Et c'est à ce moment-là que quand Henri Bolofleff est arrivé, et Vassiliev, à l'époque, Vassiliev était connu de personne en France, il avait besoin aussi d'avoir des relais. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Holweck est arrivé à Monaco et il a participé à toute cette période. Et là, je vais laisser la main à mon ami Eric Silvestre. Mais il a été partie prenante de toutes les décisions. Et surtout, quand Vassiliev fait partie, ça a été un des seuls avec des grosses responsabilités à rester.
Mais en t'écoutant, je me dis surtout, je suis en train de me faire un tic, je me dis, mais comment ça se fait que Vassiliev n'est pas encore rebondi? Comment l'OM, par exemple, qui cherche un directeur sportif ou je sais pas. Mais Vassiliev, je comprends pas, c'est le genre de mec qui doit retrouver un club très vite. Parce que franchement, il y a eu quelques histoires d'argent, tout ça, mais de toute façon, dans le foot, il y en a toujours. Mais ce qu'il a fait en l'espace de 2-3 ans à Monaco, il a une compétence incroyable, il a envie de revenir dans le foot. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un club qui se jette dessus.
Pour conclure, Stéphane Powell, sur
juste
le stade
pour conclure, et pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Philippe. C'est que dans cette conjoncture actuelle, il va falloir aussi, et on parle de milieu économique, aller chercher des partenaires financiers, des sponsors. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un qui a envie d'investir dans le football et qu'on entend ce genre de discours qu'on vient d'entendre avec une osmose, avec une symbiose entre des gens qui vont rentrer dans ce club, quand on est partenaire financier de Rennes, ça rassure parce qu'il y a quand même des gens qui sont en train de se poser la question.
Jusqu'à Lyon, tu crois ?
Oui.
Je pense vraiment que quand on est partenaire quand on est investisseur dans le foot, en tout cas sponsor, on doit justifier à son personnel pourquoi on met de l'argent dans un club, et là ils pourront justifier qu'ils le mettent dans un club où il y a une certaine sérénité.
Ouais, attention de pas trop enjoliver non plus, il suffit de 2-3 mois restants en début de saison et tout de suite tu te poses des questions.
Il y a quand même un organigramme, effectivement, une volonté de construire et des joueurs, un potentiel joueur intéressant pour faire une bonne saison du côté du Stade Rennais. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'OM, de Lyon, de Paris, mais aussi de ce qui se passe évidemment en France, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien puisque les autres championnats rejouent, mais pas la France. Un sondage Odoxa, RTL Groupama, sur le sentiment des Français justement par rapport à cette non-activité. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. Burger FR. On refait le match sur RTL, Denis Balbir.
Jusqu'à 20h avec Stéphane Powels, Cindy Colmenares, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. Nous allons parler de ce sondage des Français qui sont divisés sur une reprise des compétitions à huis clos. 47% des concitoyens, de nos concitoyens, optent en effet pour une reprise la plus rapide, quitte à jouer à huis clos. Mais 53% préfèrent que l'on attende que les spectateurs puissent revenir dans les stades. On va rappeler, Philippe Sanfourche, que l'Allemagne a repris, que l'Italie va reprendre le 20 juin, l'Angleterre le 17 et également l'Espagne le 11. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce huis clos, de cette reprise ailleurs et pas en France ?
C'est surtout que j'entends finalement la sagesse et le fait que par rapport à l'opinion publique, on a finalement une logique de fonctionnement.
C'est quasiment du 50-50.
Oui, mais...
Si on fait une moyenne.
Oui, peut-être, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il y ait une volonté absolue des supporters, même des amateurs de foot, des ultras. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont signé des manifestes en Europe entière pour dire une reprise sans nous, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas oublier. Moi, j'entends le discours de tous les présidents qui sont vent debout en disant c'est une question de survie économique. Oui, peut-être à court terme, sur quelques mois, effectivement, il y a quelques millions qui vont pas rentrer. Mais encore, imaginez, par exemple, les contrats, ils ont été rompus avec les diffuseurs sur la. Donc, imaginez que si ça reprenait, on fait quoi? On fait une nouvelle appel d'offres pour les 10 matchs qui restent. Donc, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Mais surtout sur la longueur. Si le foot aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire ce sport aussi populaire qui génère autant de revenus financiers, c'est parce que c'est un spectacle global, avec de la passion, avec des gens dans les stades. Si vous dépréciez le produit, sur le long terme, ils ne s'y retrouveront pas financièrement. C'est-à-dire que les diffuseurs demanderont des ristournes. Le prix du foot va baisser. Donc finalement, c'est aussi une réflexion à long terme. Et j'ai l'impression qu'il y a du bon sens, moi, aujourd'hui, un petit peu plus en France que dans d'autres pays.
Et alors, ce qui est amusant dans le sondage RTL, Groupama ou Doxa, c'est que l'essentiel des Français envisage un statu quo quant aux abonnements par rapport aux télévisions, aux diffuseurs. C'est-à-dire qu'il y aurait plus presque des gens qui vont rendre des abonnements plutôt que s'abonner pour voir du foot. Eric Silvestre.
Quand on voit le prix de l'abonnement annoncé pour la saison prochaine, je comprends qu'il y a des gens qui. Sans faire offense.
2% des Français seulement vont prendre un abonnement supplémentaire et plus sont enclins à en rendre.
Le prix annoncé, alors on verra le produit, pour l'instant on ne le connaît pas, mais le prix annoncé est quand même très cher pour ne faire que du foot, quasiment. En plus, il y a l'insécurité économique qui touche tout le monde avec la crise. Donc je comprends que les Français soient prudents sur le fait de vouloir prendre un nouvel abonnement ou pas. Après, il ne faut pas juger le produit avant qu'il existe. Et puis peut-être qu'une fois que le foot sera reparti, qu'il y aura un élan, une vie retrouvée, que les gens seront sécurisés peut-être aussi au niveau économique sur leur emploi, il y aura une volonté de dans ces cas-là, s'ils peuvent retourner dans les stades ou sinon reprendre un abonnement télé et puis ils écoutent la radio, c'est encore mieux de toute façon.
Mais d'ailleurs, il y a un pourcentage quand même assez saisissant pour ceux qui croient effectivement que tout le monde regarde tout, c'est que 73% des Français n'ont aucun abonnement et ne comptent pas en prendre.
Stéphane Powell. On va en reparler après aussi, ce que nous a dit le président de Rennes sur l'envie de regarder les matchs avec ou sans public, c'est je pense un sujet de tout à l'heure. Moi j'ai envie de dire la une de l'équipe, je veux dire, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais moi, je ne vais pas changer d'avis, c'est-à-dire que...
Moi,
j'ai juste envie de vous dire
Stéphane
que...
Poet.
Non, il n'y a pas de complot contre l'Olympique de Lyon. Oui, il aurait fallu suspendre et non arrêter la Ligue 1, mais c'est facile de le dire maintenant, parce qu'il y a 2 mois et demi, la crise sanitaire, elle était bien, bien différente. Oui, il y a l'intérêt de reprendre, était avant tout économique, parce que ceux qui se sont battus en disant « on doit reprendre », c'était... un combat économique, pas forcément on n'a pas pensé à autre chose que cela, on n'a pas pensé au risque de ce qu'il y avait. 4, non, la Ligue 1 ne reprendra pas, Elle va pas reprendre. Donc il faut arrêter cette polémique maintenant et préparons la suite pour la saison prochaine.
D'accord, on peut quand même dire qu'on s'est précipité en France, on va pas donner des exemples de morale à
tout le monde. Et le dernier point, je vais dans ton sens. Stéphane et oui, il faudra analyser le moment venu comment une telle décision a pu être prise. Il y a à boire et à manger. Oui. Mais moi, je pense tout le temps, et je pense que Philippe est un peu d'accord avec moi, on a eu une réflexion aussi sur la santé des gens. Mais non, mais c'est vrai, on a d'abord pensé à cela. Avant, alors bien sûr que M. Aulas a fait des combats de foot.
Ce que j'ai retenu dans les propos du président Hollevec, qui était à mon avis très intéressant et à mon avis une réalité, c'est surtout... Au-delà du virus, c'est la blessure, les blessures, les accumulations de blessures potentielles chez les joueurs.
Effectivement, à la reprise, on peut s'attendre qu'il puisse avoir des blessures par rapport à tout ça. Après, c'est pas une Sud-Américaine qui vous dira allez-y, commencez les footballs, oui, clone, nous on aime les footballs, on aime la fête, forcément. Mais on peut pas nier que le fait que les footballs soient totalement à l'arrêt, c'était précipité. Après, il y a les présidents qui ont parlé. Et il y a aussi les présidents qui ont mené, si on puisse dire, leur petit chantier derrière. On ne les connaît pas, ceux-là. Donc, en fait, là, vous vous attaquez peut-être à ceux qui ont osé donner leur avis. Je parle notamment d'Anne Aulas, mais il y en a d'autres présidents derrière qui ont fait aussi des choses et qui ont provoqué ces changements. Et ceux-là, on n'en parle pas.
Je veux bien l'entendre, mais je pense que tout à l'heure, le président de Rennes nous l'a dit aussi. Il y a une décision politique qui a été prise. Et ce n'est pas le seul pays, d'ailleurs. Il y a des pays aussi. Où il y a
mais c'est là le problème, justement.
Alors,
Stéphane,
j'ai pas fini. Il y a une décision qui a été prise. Si à un moment tout le monde veut prendre des décisions, la Ligue, où c'est l'État dans l'État, où là il y a un problème de gouvernance, la Fédération, M. Le Graët fait un petit peu comme il le veut, il montre que c'est le président du foot français, et les politiques doivent quand même quelque part, les politiques en général doivent essayer aussi à un moment de penser à la population. Et à deux mois et demi de ça, moi je pense que ça a été, Eric, précipité, mais on ne peut pas venir dire que la décision était mauvaise il y a deux mois et demi. Alors il fallait peut-être suspendre.
Mais bien sûr que non, la décision était pas mauvaise et personne ne voulait prendre le pas économique sur le sanitaire. Tout le monde est d'accord pour dire que le sanitaire était le plus important. Mais pourquoi le seul domaine qui a été bâché en 48 heures, c'est le sport? Pourquoi on l'a cité nommément en disant jusqu'en septembre, il n'y a rien? Pourquoi tous les autres domaines, on a laissé du temps pour voir comment ça évoluait? Rien ne t'obligeait à reprendre si la situation ne le permettait pas. Mais rien ne t'obligeait non plus à tout bâcher d'un seul coup.
Alors on en a parlé quand même régulièrement et
ah oui, mais c'est quand même le problème.
Je sais très bien, mais j'avais...
Moi, j'en ai pas parlé. Hein.
C'est bien de ne pas en faire quand même une demi-heure de tous les samedis.
Non, parce que vous avez bien les matchs sans public.
Philippe Sanfourche, voilà, RTL. On va parler justement de ce sentiment qu'on peut avoir quand on regarde des matchs à huis clos. Vous aimez bien les petits bruits des supporters ou la technique?
Non. Alors c'est très simple.
Les insultes, tout ça.
Facile de reprendre. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu ces matchs-là, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui est d'ailleurs très bien fait. Je ne le nie pas techniquement. Il y a finalement un réalisateur, un mixeur, un DJ, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui a donc une banque de sons de supporters et qui est capable de mettre des bruits d'applaudissements.
Il y a 20 ans, des émissions humoristiques.
Ça siffle quand c'est l'équipe visiteuse. Quel ballon, machin. Donc en fait, on est dans un scénario, dans un fake. On est dans quelque chose qui n'existe pas.
Mais qui fonctionne, parce qu'en France, on s'est trompé en mettant les cibles, hein, donc il faut quand même les souligner.
Peut-être, mais il y a deux façons de voir le foot. Et je veux pas jeter la pierre. Il y a effectivement les diffuseurs qui sont des organisateurs de spectacles et qui vendent le foot comme un spectacle. Moi, ma position de journaliste, c'est de dire on traite le sport comme quelque chose qui existe, qui est réel et dont on rend finalement la vérité, que ce soit dans les micros, à la télé ou quelque chose comme ça. Et je prends... Et d'ailleurs, j'ai des ennemis sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais j'assume totalement.
Moi, c'est pas nouveau, Philippe, je
traite le sport comme si on me demandait de partir en reportage politique ou sur un terrain de guerre. C'est-à-dire qu'on va pas mettre des faux bruits d'armes si on est sur un terrain de guerre, on va pas mettre des faux applaudissements dans un meeting si on va voir des politiques.
Parce qu'on nous dirait qu'on
biaise l'information. Et moi, je trouve que ces bruitages, ça biaise l'information. Les ultras, les supporters, les gens qui aiment le foot, ils sont pas dans les stades. On assume qu'ils soient pas dans les stades et on passe pas des faux applaudissements et des faux cris de supporters.
Alors,
c'est mon avis.
Pas mieux,
et je le partage.
Et pas mieux, parce que je pense comme toi, mais deux, quand on aime le foot, je suis désolé qu'on soit journaliste, qu'on soit passionné de football, faut arrêter de nous faire croire que ça, c'est excitant. Moi, ça me gonfle, j'ai même pas envie de regarder.
Non, mais pas pour les autres.
Attendez,
je peux parler pour moi. C'est-à-dire que quand je suis un amoureux du foot, moi, de l'herbe, du terrain, du foot, de l'ambiance, des supporters qui chantent, venir me demander de regarder, et ça me fait rire. Hein, maintenant, tout le monde adore la Bundesliga, tout le monde s'en battait les cacahuètes il y a encore quelques mois. On nous dit même dans mon pays, on fait des une Hector Ganazar, magnifique Bundesliga.
Attendez.
Ils connaissaient que le Borussia Dortmund et ah oui, c'est sûr que les gens avant ils regardaient Cologne et sur certains qui regardaient Hertha Berlin. Des couillonnades. Je vais vous dire un truc. Juste pour terminer. Moi, regarder un match de foot où il y a un DJ derrière qui nous fait semblant qu'il y a des mecs qui crient derrière, ou avoir des mecs qui peuvent pas s'embrasser, les accolades normales au niveau du foot, où on voit pas d'émotion, ben moi c'est pas le foot que j'aime. Je suis désolé. Je respecte Cindy, ceux qui ont envie de regarder ça, mais moi personnellement ça me gonfle.
Baptiste Durieux.
Beaucoup de messages évidemment, notamment celui de Hugo, c'est une lapalissade, c'est cliché, c'est du déjà dit, mais le football est-ce qu'il est grâce aux supporters? Je préfère retirer le ballon que les supporters, nous dit Hugo. Et puis le message de Tristan, j'ai deux phobies, les araignées et les stades qui sonnent vides. Pas de football tout simplement. Et si ça se joue à huis clos, nous précise Tristan, on fera comme les ultras du PSG contre Dortmund, c'est pas point
bon,
final.
C'est pas bon signe, Eric Silvestro sautille sur sa
chaise. Mais non, mais je suis d'accord avec tout ça, comme tout le monde préfère un stade plein, évidemment, mais là il y a un contexte particulier.
Oui, oui.
Moi, on m'a dit aussi, vous allez voir, les mecs, ils ont eu que 4 semaines, ça va être n'importe quoi, ça va jouer à 2 à l'heure, etc. Je regarde depuis 15 jours la Bundesliga, et je la regardais aussi avant, Stéphane.
T'as acheté le maillot d'Hertha Berlin.
Je trouve que c'est pas si mal. Là, cet après-midi, je regarde le Bayern jouer avec un doublé de Benjamin Pavard, d'ailleurs, je suis ravi pour lui. Mmh. Le troisième but du Bayern, je vous encourage à aller les voir sur RTL.fr.
C'est pas si mal.
Ce que je veux dire, c'est que si tu aimes le foot, regarde le troisième but du Bayern aujourd'hui. C'est une action collective absolument magnifique. Et moi, je retrouve enfin un peu de plaisir à regarder du foot, en attendant, évidemment, le foot que j'aime, qui va revenir plus tard. Mais en attendant, c'est pas si mal.
Ok, on se retrouve dans quelques instants. Nous parlerons de Marseille, de Lyon, de Paris Saint-Germain, bien sûr, avec Cindy Colmenares, Stéphane Powells, Baptiste Durieux, qui relaye les propos des auditeurs et leurs sentiments. Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, d'RTL jusqu'à 20h. À tout de suite.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
Dites-moi.
Denis Balbir sur RTL,
on refait le match.
Jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, Stéphane Powells, Eric Silvestro d'RTL et Philippe Sanfourche d'RTL également. Philippe, c'est le big bazar à l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault.
J'étais avec un auditeur privilégié.
32-10,
je ne le cache pas. L'ami
votre
Pascal
avis nous intéresse. Qu'est-ce qu'il veut, Pascal?
Il n'est pas d'accord avec nous.
Ah, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il veut,
Pascal? Il n'est pas d'accord avec nous.
Il n'est pas d'accord, mais c'est...
Non, parce que j'ai osé envisager le fait que si le football était déprécié, et notamment que le spectacle auquel participent aussi les supporters et contribuent, n'était plus le même, et bien qu'il y avait le risque que la prédominance du foot ne soit pas forcément celle qu'elle a été depuis des années. Et alors là, il est vent debout.
De toute façon, en prédominance du foot en France, ça n'existe pas. Donc.
Parce qu'il m'explique qu'il n'y a plus un ultra en Angleterre et c'est le football que tout le monde aime, qui se vend le mieux dans le monde.
Non, mais en France, de toute façon, on n'a jamais eu le foot, a jamais eu la place que
Pascal Pro. Pascal Pro, ça fait un moment qu'il a coupé avec le foot.
Ne dites pas de mal de mon ami Pascal.
Alors,
c'est
un retour de voir des matchs et tout,
maintenant.
Un grand passionné.
On l'embrasse. L'Olympique de Marseille, donc Jacques-Henri Hérault a-t-il repris la main? On voit Sébastien Pérez qui s'en va de la formation, cellule de centre de formation. Zubizarreta est parti, on le sait, mais Villas-Boas est resté. Olivier Piqueux, son nom est prononcé également pour prendre un petit peu la place de Zubizarreta à Marseille. On veut construire ou c'est du flan, Philippe Sanfourche?
Non, ce qui se passe à mon avis, c'est que Villas-Boas a tenté un coup de poker. Sachant que c'est quelqu'un qui, depuis quelques mois, s'imaginait peut-être un autre destin qu'à Marseille. C'était aussi une façon d'envoyer des signaux dans toute l'Europe de « attention, si avec Marseille ça se passe pas bien, je peux être disponible », parce qu'il s'est refait quand même la cerise avec cette saison à Marseille qui a forcément dû être remarquée à droite et à gauche. Donc il s'est dit, dans ces conditions-là, je tente le tout pour le tout à Marseille, où j'essaye de prendre plus de pouvoir sportif, parce qu'il le sentait bien que Zubizarreta allait partir et qu'il avait lié son destin, mais on voit bien que finalement ça a ses limites. Les choses ne se sont pas passées exactement comme il l'entendait. Zubizarreta s'en va, mais lui, il va quand même rester. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est quand même conscient, et ça c'est vrai, que tous les retours qu'on a eus cette semaine, il y a quand même un groupe. Il a su créer un truc et que les mecs lui ont signifié de manière très claire qu'ils étaient avec lui et qu'ils avaient envie d'y aller sérieusement. Donc il se donne une année de plus. Mais il a quand même perdu son pari. Je pense qu'il voulait mettre la main totalement. Il voulait tordre le bras de l'actionnaire. Il voulait. À l'arrivée, il n'aura pas beaucoup. Il n'aura pas beaucoup plus de sous. Il n'aura pas beaucoup plus de sous. Et il va quand même un petit peu manger son pain noir. Il va être obligé d'y aller et de rogner un petit peu sur ce qu'il avait dit, quoi.
Cindy Colmenares.
Oui. Alors non, par rapport à Zubizarreta, c'est vrai que maintenant qu'il est parti, il va y avoir peut-être un Pico qui peut arriver les remplacer. Et j'entends beaucoup les échos des personnes qui disent oui, mais Pico, il est resté. Il a juste fait un changé, ce n'est pas, les enjeux n'étaient pas forcément les mêmes. Et justement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, bah, il faut pas l'oublier, il a quand même réussi à amener un PP, Geoffrey Nadelaïde, c'était lui aussi. Donc, ça peut être fait. Peut-être des choses intéressantes avec un budget un peu plus supérieur, donc ça peut être intéressant pour l'OM.
Non, mais c'est pas le même club.
Alors moi, Stéphane Powels.
Je suis pas d'accord avec Philippe dans le sens où je pense, et j'ai un grand respect de Villas-Boas, et d'abord, on devrait tous être contents qu'il reste à Marseille, d'avoir des bons techniciens dans notre championnat, c'est une valeur ajoutée. Donc ça, nous sommes, bien, je présume, tout le monde content qu'un entraîneur comme ça.
On est surtout d'accord qu'il a tiré le maximum de son effectif.
Voilà. Et donc, il a optimisé au maximum ses joueurs qui étaient pour moi une équipe moyenne. Il a réussi, c'est un miracle du football, d'être deuxième. Avec des équipes, à mon avis, notamment Lille, vous savez, mon petit cœur est lillois, et des équipes qui étaient meilleures. Moi, ça m'interpelle parce que où je suis pas d'accord avec Philippe.
Si elles étaient meilleures, elles auraient été devant.
Alors, où je suis pas d'accord avec Philippe, c'est que je suis pas sûr qu'il y a eu un rapport de force pour essayer de faire monter la sauce. Moi, je pense qu'il a été très surpris du départ de Zubizarreta. Où je te rejoins par contre, c'est que je pense qu'il a cru que 10 000 clubs allaient venir et qu'il n'y en a pas 36 qui sont venus et qu'il s'est dit, bah, pourquoi pas rester. Maintenant, moi, je suis à sa place, je ne serai pas resté. Et je vais vous étonner. Bah, je ne reste pas parce qu'avec ce noyau-là, faire mieux, c'est où tu vas à Lourdes. Ça va être très compliqué, quoi. Ou alors tu fais Jésus-Christ tous les jours ou t'es Harry Potter. Dire qu'avec cette équipe-là, même avec les meilleurs directeurs sportifs qui arrivent, et sans argent, tu vas transférer qui, comment, pour jouer la Champions League.
Mais non, Stéphane, mais il y a une harmonie, une osmose avec ces joueurs qui s'est renforcée en plus pendant le confinement. Tu comprends, c'est une histoire d'homme.
Tu penses que Germain va voler l'année prochaine?
C'est tellement beau dans le foot.
Moi, je pense qu'on a surtout pris du poids pendant le confinement, mais bon, enfin, ça me regarde. En tout cas, non, par rapport à Villas-Boas, moi, je pense que c'est déjà arrivé qu'il y ait une histoire avec Zubizarreta à une époque, et ça s'est très mal passé. Ça, on en a parlé ici longuement à RTL. Je pense pas qu'il s'est osé à nous de lui faire sans lui prévenir. Pour moi, il était prévenu, et s'il a décidé de rester, c'est peut-être aussi qu'il n'avait pas non plus des grandes opportunités. Ben oui, ailleurs, au Portugal, on s'en dans tout ça. Mais je pense que cette fois, il a dû être prévenu. Et prévenu, oui.
Mais la question n'est pas là, Cindy. Ça, je te rejoins, c'est de savoir, il va jouer avec quoi,
Stéphane Powels.
Moi, je veux bien quand au niveau de l'effectif.
Non, mais quand t'es un entraîneur, c'est un mec qui a quand même fait la Champions League avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui a lancé des joueurs, qui a quand même fait un travail conséquent, qui a fait une belle saison. C'est pas un mauvais entraîneur.
Est-ce que pour vous, le président Héro, qui était quand même dans le collimateur, il a donné la tête de Turc de tout le monde, est-ce qu'il a sauvé, non pas sa peau?
Non, mais ça dépend. Maintenant, mais qui c'est qui va arriver pour les remplacer.
Demandé de rester.
C'est Macour, monsieur Héros.
Vous savez ce qui peut sauver sa tête? C'est Campos arrive. Voilà. Si
Campos
arrive.
D'abord, Campos arrive.
Non, mais ça arrive pas. Il n'y a que ça qui pourrait sauver sa tête. Moi, je ne vois pas. Sinon, il s'est mis tout le monde à dos un peu. Alors, il faut être sincère.
D'abord, monsieur Campos n'ira pas à Marseille, que ça soit très clair. Et donc, je vous le dis ici. Et donc, mais oui, complètement dingue aussi s'il va à Marseille. Monsieur Campos, il peut aller à Monaco.
Ça n'a
jamais été imaginé une seule fois, sauf dans certains médias. Je vais vous dire un truc. Monsieur Héros, là, ça vient de le demi-sauver. C'est-à-dire que même si c'est pas lui qui a pris la décision, mais que Villas-Boas est là, les supporters sont un petit peu calmés. Sauf que les supporters de Marseille, s'ils voient pas un joueur qui arrive et qu'ils savent qu'ils vont, et c'est pas des dingues quand même, ils connaissent le foot, s'ils savent qu'ils vont devoir aller en Champions League avec ce noyau là, Monsieur Héros, il va pouvoir courir très vite déjà au mois de septembre. Il y a intérêt
à parce que ça va pas être facile. Quelqu'un pour remplacer Zubizarreta. Parce que de toute façon, il y aura quelqu'un pour les remplacer. Les problèmes avec l'OM, c'est que c'est toujours la même chose. Lors du mercato. Ils sont toujours en retard. Les supporters, il y en a marre. Donc là, normalement, les recrutements de quelqu'un qui va remplacer Zubizarreta, ça aurait dû être annoncé hier. Après, et ça n'est toujours pas annoncé.
Oui, mais le problème, ils ont pas trouvé. Après, on parle que Olivier Piqueux a été sondé. Monaco le cherche aussi. Ça existe. Olivier Piqueux, pour le coup, pour l'Olympique de Marseille, ça me semble être un choix tout à fait cohérent. Après, est-ce qu'il voudra aller à Marseille? Est-ce qu'il préférera aller à Monaco? Est-ce qu'il préférera aller à l'étranger s'il a d'autres offres?
Le problème, c'est que tu peux être le meilleur des meilleurs s'il n'y a pas d'argent.
Non, mais pour l'OM, pour le coup, que l'OM essaye d'avoir Olivier Piqueux, ça me semble cohérent sportivement. Il n'y a pas eu que des décisions cohérentes sportivement à Marseille. Là-dessus, qu'on essaye d'attirer Piqueux, ça ne me semble pas incohérent.
Avant de conclure avec Marseille, JM, supporter de l'OM, est avec nous. Bonsoir. JM, supporter de l'OM. Alors, quel est ton sentiment? Villas-Boas qui reste, on cherche un directeur, enfin plutôt un quelqu'un qui va s'occuper du recrutement, un directeur sportif. Olivier Piqueux, son nom revient avec insistance. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, Villas-Boas qui reste, c'est fantastique. Mais déjà, il faut le remercier pour la saison qu'il nous a fait vivre, parce que franchement, on est deuxième. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec un effectif comme ça, c'est inattendu. Du coup, on va voir ce qui va se passer l'année prochaine. Et ce directeur sportif, il peut pas faire pire, je pense, que ce qui s'est passé, je pense. Vraiment. Parce que là, on est un peu la risée, il faut pas se le cacher, vous êtes d'accord avec moi. En France, franchement, quand on voit comment est géré le club, à croire que c'est une blague, quoi. Il faudrait arriver à partir, à repartir sur des bases solides et faire quelque chose de carré. Mais là, avec tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat en 2021, qu'est-ce qu'on va faire? Là, en plus, il paraît qu'il faut vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre lesquels? Enfin, moi, je comprends pas. Je suis désolé, mais tu sais, mon ami, je pense que
je comprends tout à fait ton sentiment. Le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. C'est-à-dire que tu peux mettre des performeurs, je pense, M. Piqueux et d'autres, si t'as pas d'argent, forcément, je vous comprends, supporter de Marseille. Et donc, c'est à votre actionnaire qu'il faut lui demander de remettre la main.
Il veut pas.
Il veut pas, donc ça va être compliqué. Et je comprends le supporter.
J'ai presque envie de dire que là, alors qu'il est, c'est même pas forcément un excellent recruteur qu'il faut, c'est surtout un bon gestionnaire. Tu dois trouver 60 millions cet été. Donc, tu peux mettre Leonardo, Guardiola et qui tu veux. De toute façon, faut vendre. Faut pas acheter, faut vendre.
Et qui? Et tu vas faut demander à notre supporter.
Baptiste Durieux, pour conclure sur l'Olympique de Marseille, des messages des auditeurs.
Oui, notre auditeur Axel sur le @RTLFoot sur Twitter qui nous dit: l'homme le plus important de l'OM, c'est Villas-Boas. Un effectif plus complet et plus talentueux, ce n'est pas forcément mieux que l'effectif actuel avec des joueurs qui sont prêts à mourir pour leur entraîneur. C'est ça l'essentiel.
Ouais, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Jusqu'à 20h, nous parlerons de Lyon parce que ça a bougé également au niveau du directeur sportif. Bruno Chéroux est arrivé, un nouvel entraîneur des gardiens. Coupé est parti. Nous parlerons également du Paris Saint-Germain où la piste Icardi n'est plus une piste mais proche d'une signature définitive au PSG. A tout de suite sur RTL jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche, Cindy Colmenares, Stéphane Powells et Eric Silvestro.
RTL, on refait le match.
Nous misons là.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sansfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powells et Cindy Colmenares. Ça a bougé également à Lyon. Bruno Chéroux est arrivé. Ouais. Christophe Revel, entraîneur des gardiens qui remplace Grégory Coupet. Il travaillait avec Vaïdali Lodzik avec la sélection du Maroc. Rudy Garcia aurait préféré Stéphane Cassar, mais ça s'est joué à très peu de choses puisque Stéphane Cassar avait donné sa parole à Strasbourg. Il n'a donc pas plus donner suite à Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais. C'est assez particulier, hein, ce microcosme des entraîneurs de gardiens, où il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens qui sont capables, mais qui sont un peu vieillissants. Donc les clubs hésitent un petit peu. En tous les cas, Christophe Revel est là. Et on parle de Mamadou Sakho maintenant pour renforcer l'Olympique Lyonnais. Votre sentiment, Stéphane Powell, sur l'arrivée possible, pourquoi pas, de Sakho pour donner du caractère, du charisme un petit peu à la défense de Lyon.
Sakho, c'est pas mal dans l'expérience. Pour un entraîneur, c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui s'est passé. Vous avez raison sur les entraîneurs de gardiens. De toute façon, ça tourne et les bons restent souvent dans les clubs. C'est comme ça.
L'important, c'est la relation de confiance entre l'entraîneur des gardiens et son gardien.
Et ses gardiens.
Je voudrais
terminer juste sur Bruno Chéroux. Bruno Chéroux, j'ai eu l'occasion, mais vraiment, j'insiste parce que c'est vrai que c'est un peu inconnu. On l'a vu à la télévision, c'est un beau mec, physique. Non, mais c'est vrai. Et on a un petit peu cette image. Non, mais on a un peu cette image du beau gosse. Moi, je l'ai eu comme joueur à l'époque de Vahid. Et quand Vahid était, il faut le dire, parfois insupportable, etc. compliqué dans le groupe. Il était déjà très jeune à pouvoir fédérer avec son frère Benoît. Bruno, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui connaît le ballon. Et je trouve que ce recrutement n'est pas bête du tout. Et c'est quelqu'un qui peut aussi se fondre, travailler avec Jean-Michel Aulas. Il est capable, il a de la personnalité, mais sans forcément aller à la guerre, au combat. Parce qu'avec Monsieur Aulas, il faut composer. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne recrue. Je pense que Bruno Chéroux peut apporter quelque chose à l'Olympique Lyonnais. C'est personnel.
Alors, Lyon change d'un petit peu, de Philippe Sansfourche, de sphère, hein, parce que bon, Grégory Coupet qui s'en va, Bruno Genesio qui est pas, les purs Lyonnais en fait s'en vont. On voit bien qu'à la fin de l'été prochain, il y aura encore peut-être d'autres évolutions. Est-ce que c'est un signe d'évolution positive?
Il a fait un choix, Jean-Michel Aulas, quand il a décidé de donner les clés à Juninho. Il faut bien qu'il l'assume, ce choix. Ça a été compliqué au début. Il y a eu l'épisode Silvinho qui a été dramatique. Et derrière, il a fallu qu'il retrouve de la confiance petit à petit. C'est aussi une personnalité, Juninho, qui est, c'est tout l'inverse de l'image qu'on se fait du Brésilien flamboyant. C'est une personnalité un peu ténébreuse, un peu même si, il a été marqué par ce qui s'est passé au début. Donc, derrière, il fallait quand même lui donner des gages. C'est-à-dire que, malheureusement, pour Florian Maurice, à ce moment-là, c'était pas le moment pour Florian Maurice de monter en puissance. Donc c'est logique le départ de Florian Maurice. Grégory Coupet, qui est aussi une figure lyonnaise, et ben peut-être que c'était aussi la fin d'une époque, parce que
c'était plutôt particulier, parce que Coupet dans un club, c'est important, et souvent c'est les gardiens d'ailleurs qui restent pendant, et on peut faire la liste, les Dropsy, les compagnies, Jean-Luc Ettori à Monaco, Joël Batz, c'est des mecs souvent sont aimés par les supporters, ont un lien fort avec le groupe, parce qu'un entraîneur des gardiens souvent fait la passerelle entre le T1, les T2 et les joueurs. Moi, j'étais très surpris du départ de Grégory Coupet. Il y a dû avoir quelque chose, un couac quelque part.
Bah, un couac, et puis aussi, il y a Peggy Louyindoula qui a pris la direction sportive à Dijon, qui est ancien Lyonnais.
Ils sont amis.
Voilà. C'est Nicole Ménard.
Il a profité de la situation à Lyon pour le faire venir. Mais le déclencheur, c'est pas Peggy Louyindoula qui appelle Coupet, qui est super raison. Bien à Lyon, et qui dit ah oui, je change.
Non, mais quelques échos nous sont parvenus comme quoi Grégory Coupet ferait peut-être pas le travail comme il aurait dû le faire ou il pourrait le faire. C'est Nicole Ménarès.
Après, ça, c'est toujours les rumeurs. Après, pour revenir à
Il faut quand même un peu étayer quand on parle là-dessus.
C'est-à-dire qu'en gros, il travaille d'entraîneur des gardiens.
Ouais.
Voilà, c'est, apparemment, si quelqu'un s'en va et qu'on donne même les clés qu'il ait pu porter le club pendant des années.
C'est-à-dire que la mauvaise saison d'Anthony Lopez, c'est parce que Coupet le fait plus bosser.
Bah, non, j'ai pas dit ça, mais si Grégory Coupet s'en va, c'est pas juste pour aller acheter de la moutarde à Dijon. Je veux dire, s'il part, c'est qu'il y a une bonne raison et apparemment, il ne donnait pas forcément satisfaction à ses dirigeants.
Ça veut dire aussi que Dijon prend un bon entraîneur de gardien parce qu'il considère
mais en tous les cas, voilà, c'est comme si Stéphane Ruffier, on dit c'est un mauvais gardien. C'est pas un mauvais gardien.
Il pouvait pas garder 50. Au-delà du fait que c'est l'entraîneur des gardiens, c'est Grégory Coupet. Et vous avez d'autres anciens Lyonnais qui étaient là, comme Baticle ou comme Cassapa. Et finalement, tu te demandes quelles sont leurs attributions. Alors, les mauvaises langues, encore une fois, diront que ce sont surtout ceux qui font remonter les bonnes informations auprès de Jean-Michel Aulas. Mais tu peux pas faire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que tu sois inclus dans le projet. Ouais. Et si tu décides de donner beaucoup de force à Juninho et à Rudy Garcia, qui sont aussi quand même des personnalités fortes et qui imprègnent sur le groupe, eh ben il peut pas y avoir 6 personnalités qui imprègnent sur le groupe. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça fasse bouchon.
Là, la personnalité qui vient d'arriver est quand même pas mal parce qu'il a déjà identifié quels sont les besoins actuellement de l'OL, notamment en défenseur central, dont tu l'évoquais tout à l'heure.
Après, on l'avait identifié.
Je pense que tout le monde, la France entière, l'avait identifié. Mais surtout, quelque chose d'assez important, c'est qu'il faut du caractère à l'OL. Et il a très bien compris. On le voit au niveau des vestiaires. Bon, là, clairement, par rapport à la situation actuelle de l'OL, c'est compliqué. Mais pour pouvoir revenir, en tout cas, il faut effectivement du caractère pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle il se retrouve actuellement.
Puis Bruno, il a joué à Liverpool aussi. Il a aussi un réseau. Ça ne faut pas l'oublier. C'est important. Quand on a ce poste-là, on doit connaître. Non, il a joué en Angleterre.
Avec Gérard Rouillet qui est aussi dans le.
Voilà, donc je pense que c'est intelligent.
Après, pour rebondir sur la rumeur Sacco, évidemment, sur le papier, comme ça semble. Ça semble flairer le bon coup. Alors j'attends de voir quand même parce que Sacco a eu une saison aussi compliquée, les blessures.
C'est l'année d'avant, il a été performant, 27 matchs.
Jeune non plus. Après, c'est vrai que ça ressemble à un bon coup. Mais là où je suis rassuré, c'est que Jean-Michel Aulas nous parle depuis des semaines de catastrophe économique, de football français par terre, sous terre même, etc. Et que là, on peut se permettre de commencer à envisager, pourquoi pas, de recruter des anciens internationaux qui sont en Angleterre avec des salaires absolument mirobolants.
Sur les salaires.
Et là, on peut bosser là-dessus. Ça me rassure.
Sans Ligue des Champions.
Mais
non, attends, Eric, il y a un moment, il faut bien faire la part des choses. Parce que moi, je suis bien, et je suis le premier, nous tous, à penser qu'à un moment, il en fait un peu trop, notamment dans ses combats, mais qu'il soit un grand président, et qu'à un moment, il prépare la suite.
On est tous d'accord.
En prenant des bonnes embauches.
Peut-être on verra ce que ça donne, mais si tu peux aller commencer à titiller des salaires anglais pour les faire revenir en Ligue 1, je trouve que c'est rassurant pour la santé économique du football français.
Et l'autre, c'est tout ce que je dis.
Julien, supporter de Lyon, est avec nous. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça,
l'arrivée ce soir, hein.
Le départ de Florian Maurice, l'arrivée de Bruno Chéroux, le départ de Grégory Coupet, ça bouge quand même, mine de rien.
Ça bouge un petit peu. Et moi, je pense que l'élément déclencheur, ce qui a donné l'envie à Grégory Coupet de partir, c'est l'arrivée de Tata l'année dernière. Et quand il y a eu la petite broutille entre Tata et Lopez.
Tata Roussanou, pour Tata.
À ce moment-là, quand Tata disait qu'il allait peut-être devenir numéro 1, et que, à mon avis, dans l'esprit de Coupet, ça n'a jamais été possible et que c'était que Anthony Lopez, je pense qu'il s'est dit, Bon, on ne veut plus m'écouter. Lopez, Tata, il a été recruté pour donner la concurrence à mon petit poulain. Moi, je n'aime pas ça. Et donc, peut-être que petit à petit, il s'est dit, j'ai envie, j'ai peut-être plus la confiance ou moins de confiance. Donc, c'est peut-être le moment pour moi pour partir.
L'ancien gardien de Nantes qui est arrivé à l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On va refermer cette page lyonnaise et on va ouvrir tout à l'heure la page du Paris Saint-Germain dans quelques secondes. On se retrouve justement après la pub avec Cindy Colmenares et Stéphane Powels, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. À tout de suite.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
Pour Leclerc.
Denis Balbir sur RTL,
on refait le match.
Avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels, Cindy Colmenares, nous allons parler du Paris Saint-Germain. Philippe Sanfourche, Icardi, ce serait quasiment sur le point d'être finalisé. En tous les cas, les journaux italiens le confirment aussi, comme on a pu l'apercevoir également en France, avec en plus une petite ristourne au passage.
Oui, déjà techniquement, il faut se souvenir que les conditions de son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est qu'il est prêté avec option d'achat, c'était sur un an, on arrive à la date butoir, et donc il y a un moment, il faut se décider si on prend ou on valide ou on valide pas. Il y a un petit coup de bluff de poker menteur, enfin qui est le travail normal de négociateur de Leonardo qui essaye de rogner un petit peu sur le montant initial qui était 70 et puis d'arriver à 60, il y aura peut-être quelques bonus. C'est aussi pour montrer, il y a un côté symbolique aussi, c'est-à-dire que la crise est passée par là, on peut pas arriver, bam, on revient tout de suite, il y a plus de match, il y a plus rien, mais c'est pas grave, on prend quand même, on met 70 millions. Ça enverrait un signal sur le marché qui serait pas bon pour la suite, notamment pour les possibles autres achats.
60, c'est les sous quand même.
Du Paris Saint-Germain. C'est les sous.
C'est pas une
décalée. Ouais, le monde d'après, le truc, mais en fait, tu reprends quand même.
Non, mais si on t'écoute,
là où c'était arrêté.
On parle d'un contrat de 4 ans et d'un salaire de 10 millions.
Pour un attaquant de cette qualité de moins de 30 ans, 60 millions, c'est quand même moitié prix par rapport à avant la crise.
Et non, mais
en valeur. Un grand attaquant aujourd'hui, c'est 100 millions.
Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un attaquant qui a été courtisé notamment par la Juve. Ça, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il vaut autant.
La Juve les voulait. Donc, non, clairement, il n'y a pas que ça. C'est un joueur qui sait jouer aussi, qui est à l'aise dans les petits espaces. C'est un joueur qui s'est super bien intégré à l'effectif. Et c'était pas une chose simple.
J'ai quand même vu pendant 2 mois et demi qu'il ne touchait plus un cuir.
Non, mais la Juve, c'est très intéressant, Cindy. Tu as raison. Parce que ce qui fait que le PSG peut le signer et sans doute avec une ristourne, c'est que le club qui le voulait le plus, c'est la Juve. Et l'Inter, impossible de vendre Icardi à la Juve parce que c'est l'ennemi juré, c'est celui qui phagocyte tous les championnats. Et si tu lui vends ton attaquant et qui en plus c'est le mec qui leur manque parce qu'Higuain il plante pas un but et que tu leur mets Icardi dans la surface à côté de Ronaldo et de Dybala, c'est-à-dire que tu les verras plus jamais la Juve. Et donc on préfère perdre 10 ou 15 millions
que de renforcer la Juve.
Mais évidemment, donc c'est ça qui est intéressant. Et le PSG a bien joué.
Je dis qu'il vaut mieux maintenant négocier
Stéphane Powels
avec l'épouse d'Icardi qu'avec la mère de Rabiot. C'est, à mon avis, c'est plus facile.
Et plus sérieusement,
bien sûr, c'est un bon joueur, mais à mes yeux, il a aussi montré dans une période où ça devenait un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas un grand attaquant comme vous dites, c'est un bon attaquant.
Ah bon
et dans le noyau du Paris Saint-Germain, je suis mesuré parce que je sais que votre petit cœur parisien va encore souffrir de ce que je vous dis, mais c'est un bon attaquant, mais c'est pas un phénomène.
Je trouve que
60 millions, c'est bien payé.
C'est un formidable buteur, c'est un vrai neuf comme on n'en a pas vu depuis très très longtemps.
Un extraterrestre, Philippe Sanfourche.
Je pense qu'il a tout simplement, il s'agit pas de dire il est meilleur, il est moins bon, il est ceci par rapport à Cavani.
Il est argentin, quoi.
Je dis simplement, il a un profil technique.
Il est à notre niveau.
Qui, pour moi, en complémentarité d'Mbappé et de Neymar, est absolument parfait. C'est-à-dire que pour moi, c'est la complémentarité absolue.
Vous n'allez pas comparer Lewandowski avec Icardi, comme vous n'allez pas commencer à me faire pleurer. Gâcher ma soirée.
C'est un superbe neuf. Et je suis désolé, mais il est quand même arrivé au Paris Saint-Germain. Ça faisait 6 mois qu'il ne jouait plus. Il a été obligé d'être propulsé.
Et tout le monde doutait, je me souviens.
Titulaire face au Real, il n'avait pas fait un match depuis 6 mois. Non seulement il a tenu la baraque, mais il a fait partie de cette équipe qui a donné le ton et qui a battu le Real. Il met 20 buts. C'est le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé pour sa première saison, sa première intégration. Moi, je dis que si ça, c'est pas un gage de qualité.
Merci Tuchel. Comme quoi, Tuchel, c'est un grand coach.
C'est un joueur qui, depuis 6 saisons, marque minimum 20 à 25 buts minimum par saison en championnat, qui marque hyper régulièrement en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, arrêtez, c'est 50 millions. Alors évidemment, aujourd'hui, ça choque avec la crise, avec tout ça. Mais 50 millions pour un attaquant de ce niveau, mais c'est cadeau.
Et qui ne fait 60, pas d'histoire.
C'est 50 plus bonus.
Vous savez, pour Eric Silvestro, 10 millions,
c'est rien. Non, et un joueur surtout qui ne fait pas d'histoire, qui a su s'intégrer à l'effectif, qui donne les maximums. minimum. Non, mais on s'est déjà tout vu, honnêtement. Il était dans ces situations.
Il aurait
pu avoir des histoires. Par exemple, même si Cavani, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il y en a eu avec Neymar, il y avait d'autres. Ils étaient en concurrence, il a su s'intégrer. Et des façons aussi humaines, ils s'entendent très bien, même en dehors des terrains. Donc moi, je pense que c'est un joueur qui est absolument sa place et qui est extraordinaire. Et non pas parce qu'il n'est pas lycéen, mais parce qu'il est argentin, ces joueurs. Donc forcément, c'est les meilleurs joueurs du monde.
Il a aussi eu un contre-coup après 6 mois exceptionnel parce qu'il n'avait pas joué depuis un an.
Baptiste Durieux, les auditeurs.
Beaucoup de messages sur Icardi. Ouais. Florian, pour une fois, Paris va faire une bonne affaire. Ouais, Icardi à ce prix, on est sur des soldes, sur un Black Friday, sur un moins 50% minimum. Et puis le message de Ryan.
Ils deviennent fous, les gens.
Ils deviennent fous. Ryan qui est très satisfait aussi d'Icardi. Super profil, efficacité, complémentarité parfaite avec le Ney et Kiki, Neymar et Kylian Mbappé. Et puis, ne rajoute-t-il, les Argentins tatoués qui vendent des maillots. Ça aussi, ça fait plaisir.
Aurélien,
quel bonheur!
Toi qui es belge, rappelle-moi le prix de Lukaku.
Aurélien est avec nous, supporter du Paris Saint-Germain. Aurélien, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Icardi va donc signer au Paris Saint-Germain, s'installer dans cette équipe. C'est une excellente nouvelle.
Bien sûr que c'est une excellente nouvelle. Et j'ai entendu des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, notamment sur le montant du transfert. Parce que pour avoir un numéro 9 de nos jours à ce prix-là, c'est. Presque donné, parce que c'est vraiment pas évident de trouver un très très bon neuf. Après, il a un profil, effectivement, il a un profil bien à lui, plutôt un joueur de surface. Et ben, il va falloir s'adapter à son jeu. Il fait que 1m80, donc c'est pas quelqu'un qu'on pourra comparer à Lewandowski ou d'autres neufs très très grands. Donc il a un autre style de jeu. Et je tiens quand même à rappeler que si on analyse de manière très pointilleuse son jeu, il a des appels de balles et des contre-appels qui sont excellents, presque à la Pedro Miguel Paoleta. En fait, moi, il me fait penser à Paoleta.
C'est un joueur de surface.
Un petit mot, du coup.
Pas que. Merci. En remise, il est très bon.
Oui, de au but.
Merci, Aurélien. Un petit mot quand même pour Cavani, parce que Cavani, c'est.
C'est triste, hein.
Salut, quoi. Merci,
Aurélien. Je ne sais pas, Stéphane Powell. Là aussi, c'est une question de son épouse, voir si elle pourra faire de retour ses courses aux Champs-Élysées, parce que c'était compliqué.
Non, mais là, tu mélanges tout.
Ils font leurs courses
ensemble. Rapidement.
Est-ce qu'on peut avoir un peu d'humour dans cette belle émission?
C'est pas la même chose. Je veux bien qu'on se moque de l'autre, mais l'épouse de Cavani, c'est quelqu'un quand même qui est resté très, très discrète. Et puis,
par rapport à Cavani,
moi je pense que c'est un joueur que de toute façon, il a fait son histoire au PSG. On l'oubliera pas, c'est un buteur historique au sein du club. Puis il a fait son temps, et puis oui, il sera amené à partir et il aura des belles opportunités dans d'autres championnats.
Éric Silvestro.
Moi je pense que tout le monde va être gagnant dans l'affaire. Oui, le PSG, comme d'ici, c'est une fin de cycle avec Cavani. Ouais. Lui va partir libre, va se prendre une belle prime à la signature, va avoir un dernier beau challenge dans un grand club. Le PSG récupère Icardi à un prix intéressant à la place. Franchement, tout le monde est gagnant là-dedans.
C'est un très bon joueur de 33 ans qui s'en va et un très bon joueur de 27 ans qui arrive.
Voilà.
C'est la logique.
Belle histoire.
Magnifique. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Damien Béchiot qui était à la réalisation de cette émission. On se retrouve samedi prochain, bien sûr. Merci à Cindy Colmenares, Stéphane Powells, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche RTL. Très bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Alors pour écouter le 9h30 11h de RTL, il faut l'écouter, ainsi que toutes vos autres émissions préférées sur votre enceinte connectée, il vous suffira de dire « Ok Google, lance le live RTL » ou bien « Alexa, lance RTL ». Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
RTL à la seconde près, il est 20h.